Donc, je vais passer maintenant la parole à Marie-Pierre Archambault, que j'ai le plaisir de connaître depuis déjà un bon moment, et ceci juste pour témoigner du fait qu'elle a une grande expérience. Elle a une grande expérience en faveur des adolescents en tant que médecin généraliste, mais derrière le mot généraliste, vous entendrez très vite qu'il y a beaucoup d'aspects qui se trouvent dans sa pratique. Donc, une grande expérience ayant débuté à l'hôpital Bicêtre avec le professeur Victor Courtecuisse lorsqu'il a initié la première unité d'hospitalisation pour adolescents, médecine de l'adolescent en France, et qu'elle poursuit depuis lors, toujours pour ce même public d'adolescents et de jeunes adultes. Marie-Pierre, à toi la parole.
Merci. Est-ce qu'on appuie ? Non, je n'appuie pas. Bonjour. Je n'ai de généraliste que le nom, pour l'ordre des médecins. En fait, j'ai une formation de pédiatre au départ, dont j'ai bifurqué pour être aux côtés du professeur Courtecuisse dans la création de ce courant de médecins d'adolescents. Et puis, quand en parallèle, je me suis installée en libéral, de jeunes et adultes. Je pense que nous sommes dans des sociétés où donner soin aux jeunes, qui sont l'avenir d'une société, ne s'interrompt pas le jour où on a soufflé ses bougies de 18 ans, et qu'on a énormément de questions à se poser sur l'accompagnement des adolescents et des jeunes adultes malades. Le propos d'aujourd'hui, c'est de parler de ses parents, et moi je limiterai mon propos à l'adolescence, mais en essayant d'avoir un peu une dynamique dans la construction, finalement je vais suivre ce fil parent, d'adolescent, malade. Et commençons par parent.
Élève.
Comment ?
Et élève.
Et élève, oui. Mais on va voir où se situe l'élève. Pour comprendre le processus d'adolescence, on va passer d'abord par le bébé. Donc, je vais parler du parent. Être parent, c'est accueillir un bébé, donc un petit animal humain qui mange, qui boit, qui dort, et qui fonctionne selon son instinct, que nous sommes en tant que parents chargés de satisfaire, et que cette interaction avec ses besoins de l'enfant commence à construire son monde. Monsieur Jamais le rappelait tout à l'heure, un enfant à la naissance, il n'est pas fini. Tout son monde émotionnel est en train de se construire. Et on sait que 90% de nos potentialités sont des potentialités adaptatives chez le tout-petit. Et que ça va construire notre cerveau bien au-delà de la grossesse. Donc ces interactions précoces sont fondamentales. Et elle s'articule, bien entendu, autour de ses besoins primaires. Cet émotionnel satisfait, ce cri du bébé que la maman interprète très vite entre « j'ai besoin d'être changé, j'ai besoin d'être nourri, j'ai besoin de dormir », qui n'est pas le même cri, cette interaction relationnelle avec la voix de son père, avec le bruit des frères et sœurs, tout ça va constituer le premier monde. Et cet enfant un peu animal éponge de l'émotion des autres, va construire son interface dans ce monde-là, comme l'a si bien expliqué Monsieur Jamais. Ce travail d'adaptation va continuer, puisque la tâche dévolue aux parents, c'est d'adapter ce petit animal humain à la famille, puis à la société à laquelle il appartient, par un processus éducatif, en lui transmettant, le mot de transmission a aussi beaucoup été utilisé par Monsieur Jamais, le système de valeurs auquel cette famille, j'ai envie de dire, est tirée à la loterie de la nature, puisque nous ne choisissons effectivement pas notre famille, nous choisissons la plupart du temps d'avoir cet enfant qui va être un prolongement dans le choix éducatif que nous faisons de notre système de valeurs, puisque à côté de cette première jambe de l'instinct satisfait avec lequel il est né, et qui lui donne du plaisir à satisfaction immédiate, nous allons faire pousser une deuxième jambe, qui est la jambe éduquée, qui est celle du plaisir d'apprendre les codes de la famille et de la société à laquelle nous appartenons. Il y a une très grosse différence entre ces deux jambes sur lesquelles est bâti un enfant, c'est effectivement celle du corporel, de l'instinct satisfait, c'est le plaisir à satisfaction immédiate. Celle de l'éducatif, c'est celle d'un plaisir d'appartenir à une famille, à une société, de rentrer en relation, d'apprendre ce que les anciens nous transmettent et qu'ils ont appris et découvert avant nous. Ce plaisir a la particularité d'être secondaire à un effort. L'effort de laisser son instinct de côté, l'effort de faire de la place à l'autre, l'effort de dire bonjour la dame, merci, voilà, tous ces codes que nous... Et pour que l'enfant l'apprenne, il faut qu'il ait envie de l'apprendre. Et pour avoir envie de l'apprendre, c'est le parent, l'adulte, l'enseignant que nous sommes, qui doit lui en donner l'envie. L'envie de cet effort qui permet de découvrir le plaisir derrière. Et ce n'est pas si évident que ça, nous le savons tous. Et bien entendu, ce désir va être aussi conditionné par toutes les influences extérieures à la famille que petit à petit l'enfant va rencontrer. L'école, sa place si importante, le premier lieu de vie et de construction d'un enfant en dehors de sa famille. Comme vous l'aviez si bien souligné, cet enfant qui a besoin d'appartenir aussi à l'extérieur de sa famille, à une collectivité de son âge. Pas forcément pour apprendre. Et ça, ça dépend beaucoup de la place de l'adulte pour rencontrer les copains. Je pense très souvent à cette question à trois parties que je pose aux adolescents. Quand tu étais petite, tu allais à l'école, pourquoi ? Tu y allais pour les notes, pour les copains ou pour le plaisir d'apprendre, avoir des nouvelles choses ? Et selon la hiérarchie qu'apporte l'enfant à cette réponse, vous avez des profils extrêmement différents d'interprétation de l'éducation, entre guillemets. Donc, nous éduquons nos enfants. Il n'y a pas une bonne façon d'élever les enfants, ça se saurait. Chacun en y transmettant comme parents le meilleur de nous-mêmes et en nous laissant guider par un projet que nous concevons pour l'enfant, auquel vous avez fait allusion dans votre... situation de jeune maman avec un bébé de 2 jours, mais est-ce qu'il va se marier, est-ce qu'il aura un boulot, etc. C'est cette construction première, c'est ce projet que nous portons pour nos enfants qui va leur permettre de se guider. Et si nous n'avions pas de projet pour notre enfant, nous ne pourrions pas le guider jusqu'à l'adolescence. Donc, peu importe le projet, il est porté par notre héritage et par le système de valeurs de chaque famille. Il n'y a pas une bonne façon d'élever les enfants, ça se saurait. Et on serait tous clonés, ça serait un peu ennuyeux. Donc nous faisons chacun ce que nous pouvons avec les bonnes et les mauvaises fées que nous avons reçues en héritage, dont on pourrait dire que la maladie peut faire partie, ça ou autre chose. Il y a beaucoup de bonnes et de mauvaises fées au berceau de chaque enfant. Et nous le portons jusqu'à l'adolescence en l'éduquant sur ses 2 jambes. Nous savons tous qu'il faut que ces 2 jambes marchent ensemble, sinon l'enfant trébuche. C'est j'ai besoin de mon goûter avant de faire mes devoirs. Si nous sommes un parent qui n'écoutons pas le besoin du goûter avant le devoir, ou parce que ce jour-là on est fatigué, voilà, on n'entend pas, notre enfant risque, ou parce que voilà, on est peu disponible, parce que il y a la fratrie à côté qui a aussi besoin de nous, ou un autre enfant qui est en difficulté. On parlait des frères et sœurs tout à l'heure, et de l'influence et des rivalités infantiles, et des soucis qu'on peut se faire pour d'autres enfants. Notre enfant va s'interpréter le monde et va construire ses jambes de façon inégale. D'ailleurs, ils le font tous, c'est physiologique. Il y a un moment où je suis plus dans le devoir de plaire à mes parents et d'avoir des bonnes notes. Il y a des moments où je m'en fous. Je suis plus dans l'envie de faire ce que moi j'ai envie de faire, dessiner, goûter, m'appuyer sur la jambe de ce corporel un peu sauvage, un peu créatif, moins civilisé et qui a envie d'aller se promener. Parce que c'est avant d'arriver à l'adolescence, une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est sur cette jambe du corporel que s'articule mon émotionnel, mes sensations, ma créativité, ce qui est à moi en propre, ce qui me fait être dans un ressenti personnel. La jambe du plaisir découvert par les apprentissages, c'est celle où je satisfais l'autre, pas moi. Moi, par ricochet, mais pas premièrement. Donc, ça peut m'apporter du plaisir, ce plaisir secondaire à l'effort, mais ça peut aussi m'apporter du stress. Voilà, ça demande que je contrôle, que je m'achète une conduite, que je fasse de la place à ces apprentissages, c'est un effort. Donc j'ai d'un côté la jambe du corps, du plaisir à satisfaction immédiate, de la détente, chez l'adulte ça s'appelle pause café et vacances, voilà, du relâchement, et de l'autre côté la jambe du civilisé qui fait part aux apprentissages, qui découvre que c'est sympa de lire un polar, mais qu'il faut d'abord, voilà, que c'est pour faire une disserte, il faut être exigeant et passer par des codes, voilà, et que mon monde peut s'arrêter là où celui de l'autre commence. Je dois dialoguer avec l'autre. L'enjeu de l'adolescence. À l'adolescence, mon corps se transforme. Je vais avoir une modification de mon monde que mes parents perçoivent immédiatement, surtout dans les années collège, qui est liée à cette transformation physiologique de mon corps, dont je ne choisis en plus pas la date de départ. Plus ma puberté s'installe tôt, plus c'est compliqué, ou plus elle s'installe tard, plus c'est compliqué. Les différences vont jouer. Ce corps qui se transforme me convoque à une place d'homme ou de femme, et du coup, ça va bouleverser tout mon monde, dans la mesure où la question qui part du corps, c'est à quoi il va ressembler, à quoi je vais ressembler. Et la génétique aidant, je vais forcément ressembler à mon père et à ma mère. Si génétique il y a, on voit tout de suite que, voilà, il peut y avoir des parts d'ombre dans les héritages. Un enfant adopté. Ce questionnement sur à quoi ressemble mon corps va complètement transformer la donne de mon regard sur le monde. Il va ressembler à celui de mon père ou de ma mère, et immédiatement vient la question, est-ce que j'ai envie de ressembler à mon père et à ma mère? En fait, pas à mon père et à ma mère. Est-ce que j'ai envie de ressembler à l'homme ou à la femme que je vais devenir moi et qui est caché derrière ce père et cette mère? C'est ça l'enjeu pour les parents que nous sommes, de percevoir que le regard sur nous, de notre enfant, se transforme en un regard qui est en train de devenir adulte et qui est un regard d'abord corporel et ensuite qui, de façon ascendante, va partir de ce corps pour voir notre système de valeurs d'homme et de femme et non plus de père et de mère. En d'autres termes, parce que mon corps se transforme et amène à un placement d'un dernier instinct dans un système de valeurs qui s'appelle la sexualité à venir, tout mon monde va se bouleverser parce que je vais prendre conscience que, comme bientôt adulte, je suis non plus accompagnée là, mais seule devant comment je dois placer ce dernier instinct dans un système de valeurs. Jusque-là, ce sont mes parents qui ont indiqué le sens pour placer le contrôle sur mes instincts et devenir civilisé. Et tout d'un coup, à nouveau, nouvelle donne, tout se bouleverse parce qu'il va falloir que je place ce dernier instinct dans un système de valeurs et que tout d'un coup, mon monde s'écroule, ce n'est plus mes parents qui le font. C'est moi tout seul. Et ce moi tout seul qui me fait passer d'objet d'une histoire que je n'ai pas choisie, à sujet à venir d'une histoire que je dois choisir, me place dans un conflit de fidélité où va s'engouffrer tout le questionnement et de l'héritage et des bonnes et des mauvaises fées que j'ai reçues au berceau et que je n'ai pas choisies, dont la maladie, et de ma génération à laquelle il va bien falloir que j'appartienne si je ne veux pas être tout seul dans le monde des adultes. Pour ne pas être tout seul dans ce monde des adultes, je vais me choisir des partenaires de vie. Certes, j'avais des copains en primaire, et en même temps, l'enjeu du développement de l'asexualité, de ce lien d'homme femme à un autre sexué va complètement transformer la donne, puisque c'est mes premiers pas, on va dire, dans une altérité choisie, même si de l'altérité, bien entendu, il y en a depuis l'enfance, je ne veux pas caricaturer mon propos, mais accentuer les lignes de force de ce que c'est que le processus adolescent. Le processus adolescent met mon univers par terre et me convoque à un lien de nature totalement différente de celle de l'enfance, puisque je dois construire un lien d'échange avec l'autre hors de ma famille. Je te choisis, tu me choisis, j'échange avec toi le temps que ça dure. Et comment faire pour stabiliser ce lien, pour ne pas être tout seul dans le monde des adultes? Vous percevez que le lien que j'ai dans l'enfance et que j'avais construit jusque-là est plus rassurant. Certes, je ne l'ai pas choisi, mais le CDI familial, je ne peux pas le révoquer. Je peux passer à l'adolescence avec ma famille de liens subis à des liens plus choisis, de liens fusionnels. Par définition, le monde dans l'enfance est un monde où on fait par rapport à ce que l'autre nous demande, ce que mes frères et sœurs ont comme influence sur moi, à des liens individualisés. Quand je quitte la maison, que je passe d'une famille d'enfants à une famille d'adultes, eh bien, je vais passer de ces liens subis à des liens plus choisis. Je vais devenir plus proche de l'homme qui est mon père, de la femme qui est ma mère, de tel frère ou de telle sœur avec qui je veux encore partager des bouts de vacances, mais pas de tel autre frère ou de telle autre sœur, les rivalités infantiles ayant joué ou pas. Donc il y a une recomposition totale du lien du côté de mon système d'enfant qui va se faire, et aussi une recomposition totale du lien du côté des autres de ma génération, avec lesquels je dois tisser des liens, je dirais, horizontaux, d'échange. Et c'est là où mes zones de vulnérabilité à la confiance en moi vont se révéler. Et c'est pourquoi le processus adolescent est extrêmement important, puisqu'il me fait partir dans toutes les directions, et que ça va être un révélateur de fragilité, ce moment particulier. Et c'est là où être parent, être enseignant, c'est fondamental. Nous savons tous, remémorons-nous notre adolescence, à quel point la rencontre qu'évoquait Monsieur Jamais aussi tout à l'heure, à ce moment-là de notre vie, peut être primordiale pour nous aider à réfléchir à ce tri de l'héritage que nous avons à faire. Puisque le projet parental qui nous a portés jusque-là, il n'est plus valide d'une certaine façon, puisque, on va dire, il est un peu has-been, comme disent les adolescents. Nous avions besoin d'être portés par le projet de nos parents. Sauf que ce projet ne peut être valide pour nous jusqu'au bout, puisque nos parents font ce projet pour nous avec les valeurs de leur génération. Et que le jour où nous avons nous-mêmes à nous enfanter d'un adulte, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment le dire, à devenir adulte quand on est adolescent, eh bien, nous ne pouvons que le faire avec les valeurs de la génération qui s'ouvre pour nous, de celle de la créativité du monde que nous portons en nous. Et que ce conflit de fidélité que je mettais en lumière, c'est celui entre ben, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette de mon héritage parental, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends à ma génération. Et en plus, je perçois que je suis un être unique, puisque je ne peux pas changer de sous-sol. Ça me confère quand même une certaine originalité. Je suis attachée définitivement à ce sous-sol, quelles que soient voilà, les choses que je garde ou que je jette de ce que ce sous-sol m'a donné comme parcelle de jardin sur la planète. C'est une histoire compliquée. Et selon la façon dont j'ai été construit petit, c'est là où j'en reviens à mes deux jambes, plus du côté de je fais par rapport à ce qu'on attend de moi, ou plus du côté de bon, je fais ce que je ressens de moi, je suis plus appuyée sur la jambe du sauvage, on va dire, mais créatif, qui fait un peu ce qu'il a envie, eh bien, je ne vais pas avoir le même processus adolescent. En d'autres termes, j'ai envie de vous dire qu'en médecine d'adolescent, on reçoit les DAHU, c'est-à-dire tous ceux qui ont un peu de difficulté à articuler entre la jambe du devoir et la jambe du plaisir. entre celle du sauvage et celle du civilisé, entre celle du plaisir à satisfaction immédiate et celle du plaisir différé et secondaire à l'effort. On va recevoir les adolescents des extrêmes, en tant que parents et en tant qu'enseignants. Ces enfants-là qui vont avoir, on va dire, le plus de difficultés à transformer l'équation « je marche sur mes deux jambes » en une équation adulte. Et là, tout intervient de l'héritage et des bonnes et mauvaises fées qu'on a reçues au berceau. Vous voyez bien que ce ne sera pas la même adolescence, c'est-à-dire si je suis bâti sur la créativité, le « je fais ce que je veux », le mauvais élève peut se transformer avec un potentiel de création, de compétitivité, de capacité de se battre, et que la jeune fille qui réussissait tout à l'école et qui a tous les atouts et le soutien, mais qui a été très cocoonée et qui finalement est assez peu armée pour dire « je veux ça pour moi, mais je suis très contente parce que je te fais plaisir et je te ramène des bonnes notes », eh bien, elle ne va pas faire la même adolescence et qu'elle peut révéler une vulnérabilité, une hypersensibilité, une difficulté. Monsieur Jamais faisait allusion à ces adolescentes anorexiques qui sont plus branchées du côté de « je rends ce qu'on m'a donné », mais elle s'interroge peu encore, et le processus adolescent est là pour réparer ces déséquilibres de longueur de jambe sur « et mon projet à moi, ça va être quoi ?» et « comment je ressens le monde, moi ?» et « qu'est-ce que le monde, j'ai envie d'en faire pour moi ?» Et que l'adolescent, plus bâti du côté du sauvage, lui risque de se brûler les ailes en explorant trop vite, trop loin, hein, tous ces processus, sexualité comprise, d'exploration du monde, avec beaucoup de créativité, mais quelquefois aussi beaucoup de risques et de dangers. Les dangers sont dans les extrêmes, comme toujours dans nos vies. Et en même temps, ces mécanismes d'exploration extrême vont être nécessaires pour rétablir une capacité de souplesse pour marcher avec ses deux jambes. En d'autres termes, et là je rejoins Monsieur Jamais, les chemins de traverse qu'empruntent nos adolescents pour parler de leur processus de construction est d'autant plus écarté du chemin habituel qu'il y a des zones de vulnérabilité qui se révèlent par ce moi tout seul à mettre en œuvre et que ces extrêmes, ces chemins de traverse sont nécessaires à la construction du sujet justement pour qu'il puisse passer d'objet de nos soins parentaux, d'objet de notre enseignement à une réappropriation de l'acquisition de leur savoir pour eux-mêmes et à une réappropriation d'un projet pour eux-mêmes, obligatoirement différent du projet parental que nous avons eu pour eux. En d'autres termes, ils nous surprennent et c'est leur créativité que nous devons soutenir pour le monde de demain, y compris quand elle passe par ces chemins de traverse. Alors maintenant, la maladie dans tout ça. Eh bien, bien entendu, parents d'un enfant malade, comme vous disiez tout à l'heure, ça nous tombe dessus et c'est à vie. Et j'ai envie de dire, mais finalement, on est parents à vie, quelles que soient les bonnes et les mauvaises fées. La maladie, l'exil, toute forme de mauvaises fées qui peuvent traverser toutes les familles, j'ai envie de dire qui traversent toutes les familles, et qu'on ne choisit pas. Donc, être parent, c'est savoir qu'on ne choisit pas à quoi l'on va avoir à faire face. Et c'est aussi accepter d'accompagner cette période où l'adolescent devient sujet de sa propre histoire, c'est-à-dire d'accepter de se laisser dépouiller du projet qu'on avait eu jusque-là. Soutenir des parents d'adolescents, et vous y faisiez allusion tout à l'heure en disant on ne soutient pas assez les parents, et je suis complètement d'accord avec vous, on devrait apprendre qu'être parent, c'est un jour se dépouiller, non pas de ce rôle de parent, mais de se dépouiller du projet qu'on a eu pour être capable de dire à l'adolescent maintenant c'est ton projet. Et ton projet, ça sera une partie de mon système de valeurs, mais pas tout, je le sais. C'est-à-dire finalement d'accepter de devenir homme et femme aux yeux de nos enfants qui s'interrogent sur qu'est-ce que c'est être un homme et une femme pour le futur, qu'est-ce que c'est placer la sexualité dans ma vie, qu'est-ce que c'est me choisir d'un ou des partenaires de vie. Et moi, je vais peut-être changer de partenaire, alors que pour toi, c'est très, très important dans ton système de valeurs qu'on ne change jamais de partenaire. Et bien, moi, j'adopte la position inverse. Je change de partenaire. Toi, tu voudrais que je mette mes soins, ma maladie en priorité, voilà, je me batte. Et moi, j'ai besoin de vérifier que je peux être sujet de ma propre histoire. L'éducation thérapeutique, on sait bien à quel point c'est difficile pour accompagner les adolescents malades. Et il faut voir au-delà. Leur demande, c'est d'être sujet. Si nous avons dans notre capacité à voir le futur avec eux en priorité, cette idée qu'aider un enfant malade, c'est l'aider à passer d'objet de nos soins à sujet de ses propres soins, déjà le chemin s'éclaire un peu. C'est comment moi, l'adulte, parent, enseignant, qui suis sur ce chemin, je vais pouvoir l'aider à sortir sa créativité, puisque c'est bien sur la jambe du corporel que ça va s'appuyer, sur sa capacité créative, créative de l'instant présent, surtout pour ceux dont l'instant futur est peut-être amputé, mais comment il peut à la fois se projeter dans le présent, se projeter dans un futur proche, ou dans un futur qu'on ne lui barre pas, même s'il sait et que nous savons que ce futur peut être compromis par la maladie. Parce que l'adolescent, avant tout, c'est maintenant. Et qu'accompagner un adolescent malade, et on le sait tous, c'est pas lui dire « Oui, mais demain, il y aura les complications de ta maladie, alors ton régime diabétique, si tes artères, tu vois rien. » Ça ne les intéresse pas. Ils le savent déjà. Ce qui les intéresse, c'est de rester d'abord des adolescents avant d'être des malades. C'est que nous les aidions à rester des adolescents, certes malades, mais à avoir accès à leur processus adolescent, à avoir le droit d'être des adolescents. Alors oui, c'est pas commode. C'est jamais commode, mais j'ai envie de dire, comme tout processus adolescent, c'est cette tension entre les deux jambes qui est la vie. C'est comment je vais articuler, je marche d'une jambe sur l'autre. C'est ça où se trouve l'espace de la vie. À certains moments, ça sera plus dans le devoir, à certains moments, plus dans le plaisir, à certains moments, dans la satisfaction immédiate, à certains moments, dans l'instant présent. À d'autres moments, je vais pouvoir plus me projeter. L'important, c'est de pouvoir avoir cette rencontre individuelle et de la favoriser pour chaque parent, homme, femme, avec son enfant. Et là, je parle de la position des accompagnants éducateurs que sont les enseignants aussi. Qui d'entre vous, s'il se rappelle sa propre adolescence, ne s'est pas trouvé stimulé par tel ou tel enseignant qui lui a ouvert les portes d'un savoir? Je passe de nul en maths en bon en maths parce que je fais une rencontre avec mon prof de maths et qui me regarde plus comme un sujet de mon histoire et qui voit en moi des potentialités. Voilà. On a tous comme témoignage le témoignage de certaines de ces adultes rencontrés qui, tout d'un coup, nous ont ouvert un chemin. Eh bien, avec la maladie, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que ce sont des adolescents malades qu'il faut oublier ce rôle que nous avons, qui est celui d'ouvrir un chemin, même si le chemin n'est pas un chemin qui se prolongera et que ce chemin peut être dans une amputation de certaines de nos capacités, que ce chemin peut aboutir à mourir de sa maladie. En même temps, l'instant présent est tellement important pour les adolescents, ne les privons pas de ces instants. C'est ça aussi qu'ils nous demandent, d'être des parents qui puissions vivre cet instant, qui puissions vivre l'humour, qui puissions vivre cette créativité que tout adolescent peut porter en lui. Alors, je ne fais pas fi de leur moment de désespoir. J'ai 20 ans vécu dans cette unité de médecine pour adolescents. accompagner des adolescents mourants, des adolescents hémophiles, des adolescents séropositifs, des adolescents voilà, avec des maladies très lourdes. En même temps, je finirai juste là-dessus parce que je pense que le débat est important autour du processus adolescent et de la maladie et que c'est plus, j'ai plus envie de répondre à vos questions. J'ai envie de faire la citation dans l'humour d'un adolescent que je porte dans mon cœur depuis toujours. On lui annonçait l'amputation d'une de ses jambes pour une tumeur maligne au-dessus du genou. Et il nous a regardé et il nous a dit « Il vaut mieux être de bonne tumeur aujourd'hui. » Je pense que ça résume la façon dont un adolescent peut se positionner, si nous pouvons entendre ce genre de choses.
Merci. Merci Marie-Pierre pour ce propos plein de ton expérience, y compris des DAU donc, qui, comme on le sait, sont parfaitement adaptés au terrain en pente, hein, par ailleurs.
Ouais.
Alors, on voit bien que, et je vous passe tout de suite la parole, que la question de la déstabilisation majeure qu'induit la maladie, hein, vous avez très bien parlé, on la retrouve, cette déstabilisation, un peu dans le processus pubertaire, finalement. Absolument. Et que l'adolescent, on pourrait dire, il cumule, quand il est malade, la déstabilisation qu'il vit du fait de la maladie, plus celle qu'il vit du fait de la puberté, et son entourage, les parents, vont être aussi déstabilisés à double titre, d'une certaine manière, et par la maladie, et par les changements qui s'opèrent dans leur enfant, qu'ils ont parfois du mal à reconnaître. Donc là, on a quelque chose peut-être en plus par rapport à ce que l'enfant peut faire vivre à son entourage parental et enseignant, qui est un élément supplémentaire. Alors, je vous passe tout de suite la parole pour les réactions que suscite ce propos.
Alors d'abord, je voulais vous dire un grand merci, un immense merci à titre personnel. Vous avez dit que l'adolescence, c'était toujours une histoire compliquée. Ça me rassure, j'ai un fils de 15 ans et je trouve ça compliqué. Et c'est vrai que c'est bien de le savoir. C'est bien de savoir que l'adolescence est difficile. Je me rappelle la mère d'une de mes amies quand j'étais moi-même adolescente. Moi, j'étais la seconde dans ma famille. Et la mère de cette amie lui avait dit, cette amie avait une adolescence très compliquée, très difficile. Et c'était conflictuel avec sa mère. Et un jour, la fille dit à la mère, t'y comprends rien, vraiment, t'es nulle, tu fais tout de travers. Et la mère, laissant tomber ses bras, dit, tu sais, j'apprends, en fait, j'ai jamais été mère d'une adolescence. J'ai été adolescente, moi aussi, mais c'est pas la même chose. Donc j'apprends, si tu veux, si je fais mal, est-ce que tu veux bien qu'on apprenne ensemble ? Il y a aussi ce lâcher prise, je pense, dans la paternité. Et là, je vais pas parler que de la maternité, dans le fait d'être parent. C'est ça. Un jour, mes enfants ont une maladie génétique et un généticien m'a dit, vous avez couru un risque énorme. Alors je dis, bah oui, j'ai couru un risque énorme. Il n'y a pas de plus grand risque dans la vie que la vie elle-même. Au-delà de la maladie, au-delà de tout ça, évidemment, c'est suspendu, c'est possible. Mais la vie, c'est un immense risque. C'est le risque d'aimer, c'est ce qui nous rend le plus fort et le plus vulnérable aussi, c'est d'être parent. Je crois que la plus grande force qu'on puisse avoir, et c'est aussi ce qui nous rend le plus fragile, c'est ce lâcher prise quand on est parent. On fait tout pour contrôler. On fait tout pour se rassurer. À partir du moment, et là c'est la mère qui parle, mais je pense que c'est le même processus chez le père, on coupe le cordon, on lâche prise. C'est-à-dire que jusqu'à là, l'enfant était dépendant de nous, c'était très rassurant et un peu stressant aussi. Et puis on coupe le cordon. Et là c'est compliqué parce que tout d'un coup, l'enfant devient un être indépendant de nous et on sait qu'il va vivre indépendamment de nous. Et est-ce qu'on va être capable de l'accompagner ? Il y a toutes ces peurs, vous évoquiez tout à l'heure la peur. Toutes ces peurs qui vont rejaillir et qui souvent vont alourdir le chemin. Je réalise en vous écoutant qu'il y a très souvent un dommage collatéral de la maladie, hein, quelle qu'elle soit, quel que soit l'âge, etc. C'est que cette maladie, elle rend souvent nos enfants unijambistes. Pour faire allusion aux deux jambes que vous évoquiez tout à l'heure si justement. Elle rend unijambiste parce que quand on apprend qu'on a un enfant malade, presque quel que soit l'âge, on lâche pas nécessairement prise, mais en général, on lâche tout. on essaie de recentrer les priorités et on lâche souvent le rôle. Alors, c'est un vocabulaire un peu, peut-être un peu dépassé, c'est ce qui me vient, vous l'adapterez comme vous voulez, le rôle éducatif. Ce rôle qu'on a, en effet, d'installer l'enfant dans la société et dans sa confiance en lui aussi. Dans le film que j'ai tourné, il y a un petit garçon qui s'appelle Tuc Dual, qui a récidivé d'un neuroblastome. Bon, pour l'instant, il va bien, mais il a quand même un avenir qui peut se compliquer rapidement. Donc, il a eu son premier neuroblastome. C'est un cancer, le neuroblastome. C'est un cancer très fréquent chez l'enfant. Et quand on récidive, en général, il y a de gros risques de récidiver à nouveau et que ce soit fatal. Tuc Dual a eu son premier cancer à 2 ans, récidivé à 5 ans, 6 ans. Et moi, je l'ai rencontré, il en avait 8. Il était en fin de traitement, il allait pas mal. Et puis, à un moment dans le film où sa grand-mère vient le voir, elle lui lit une petite histoire. Et Tuc Dual, à 7 ou 8 ans, il l'annonce encore un petit peu et elle lui fait lire un livre qui s'appelle Max n'aime pas lire. Bien choisi. Et puis, la grand-mère dit alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas lire? Et Tuc Dual dit on fait un effort. Elle dit j'en ai bien peur, oui. Il faut faire un effort. Alors, elle finit la phrase, sinon on reste un crétin toute sa vie. Il n'y a pas tort, mais. En fait, j'ai une discussion avec elle et elle dit, mais moi, quand il n'allait pas bien, j'ai tenu bon dans le côté, alors ce n'est pas éducatif carcan en fait, mais c'est qu'il y a dans cet intérêt que porte le parent à l'enfant, dans sa façon de le faire grandir, il y a toute la confiance que l'enfant va avoir en lui. De dire, je crois en toi. J'évoquais tout à l'heure en deux mots, avant que Gaspard me dise qu'il voulait lui aussi avoir une leucodystrophie. Moi, quand j'ai appris la maladie de ma fille Thaïs, c'était le jour de ses 2 ans, et elle était condamnée à très court terme. Je ne savais pas encore qu'elle avait déjà vécu plus de la moitié de sa vie, en fait. Et j'avais aucune chance de la guérir. D'ailleurs, les médecins m'avaient eu cette phrase extrêmement maladroite. J'imagine qu'il y a des médecins, j'en ai pas loin de moi, qui dit « il n'y a plus rien à faire ». Je n'employais jamais ce terme, il n'y a plus rien à faire. On peut dire médicalement, on ne va pas guérir, mais il y a tout encore à faire. Parce qu'il n'y a plus rien à faire, on est condamné. Ce n'est pas du lâcher prise, c'est du laisser tomber tout d'un coup, et c'est bien différent. Et moi, quand j'avais cette phrase, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire pour elle, alors qu'est-ce que je fais? Plus de contraintes, ma petite chérie. Tu as 2 ans, tu ne vas pas vivre longtemps, c'est fini les contraintes. Tu fais ce que tu veux. Tu ne veux pas de steak haché, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à prendre 2 mousses au chocolat, tu veux te lever en pleine nuit pour regarder un dessin animé, bien sûr. Profite parce que nous, adultes, et je pense que l'adolescence aussi, mon fils un jour m'a dit que l'adolescence c'était de se rendre compte que le temps passait, et je pense qu'il n'a pas tort. Nous, adultes, tout d'un coup, quand on apprend qu'un enfant est malade, on se projette dans le plus jamais, le pour toujours. On a ce temps qui tout d'un coup s'écoule trop vite, cette boulimie de vie, sans se dire que la vie, c'est pas le temps, la vie, c'est maintenant. La vie, c'est pas le temps, c'est un instant et c'est tout de suite. Et moi, dans cette vie qui est tout à fait rétrécie, je me suis dit, Thaïs, elle va pouvoir faire tout ce qu'elle veut. Et de cette petite fille qui avait un caractère très enjoué, très facile, en l'espace de 2-3 jours, incroyablement rapidement, elle est devenue capricieuse, elle est devenue... En fait, elle a eu peur, quoi. Elle n'était pas bien. Donc là, j'ai d'abord essayé de chercher dans mes propres ressources, mais mes ressources qui étaient bien empiétées par ma peine... j'ai pas su quoi faire et donc j'ai écouté mon mari, ça m'arrive pas souvent mais de temps en temps quand même, et qui m'a dit fais pas ça, tu la déstabilises, tu lui fais perdre son cadre en fait. Rappelons-nous, quand les enfants sont tout petits, j'adore, moi je fais souvent, c'est un peu sadique, mais je fais souvent l'expérience, quand vous faites peur à des tout bébés, ils écartent les bras comme ça, vous faites 3 fois, c'est pas très sympa, mais bon, ils écartent les bras, pourquoi? Parce qu'ils cherchent les limites rassurance de l'utérus en fait, de ce cocon maternel ou parental, de ce cocon d'amour. À partir du moment où je lâche complètement la bride pour Thaïs du haut de ses 2 ans, elle a beau écarter les bras, il n'y a plus rien qui la rassure. Elle ne trouve pas les limites. Ce qu'on apporte à nos enfants, cette exigence, entre guillemets, ce n'est pas juste pour qu'ils soient bons en maths, etc. C'est pour les rassurer. C'est ce tuteur, c'est cette colonne vertébrale qu'on va leur donner pour la vie. Je crois que c'est difficile quand un enfant est malade, c'est de continuer à se dire que l'intérêt dans la vie, c'est maintenant. L'intérêt de l'effort, l'intérêt de grandir, l'intérêt d'apprendre, l'intérêt d'être. C'est peut-être pour demain, bien sûr, on prépare un terrain, mais que c'est surtout tout de suite. Et cet adolescent qui, en effet, a une notion du temps qui peut être aussi différente, c'est le ramener à ce tout de suite aussi. Ta vie, alors Vous l'évoquiez très justement, hein, ça ne sert à rien de dire à un adolescent, fume pas, tu risques d'avoir un cancer à 50 ans, ils s'en fichent, c'est pas tout de suite. Il y a des moments où ils vivent aussi cet instant présent, mais ils ont quand même conscience de cet avenir qui peut être compliqué, et les ramener, et nous ramener, nous, à cet esprit d'enfant qui nous permet de vivre juste l'instant. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cet instant? Comment est-ce qu'on peut le vivre? Et puis, je vais juste finir, parce que c'est vrai que c'est plus intéressant que vous posiez des questions et qu'on continue l'échange. Vous parliez, enfin, dans tout ce lâcher-prise, dans tout ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est notre position à chacun, jamais oublier qu'on n'est que là pour accompagner. Quoi qu'il arrive, qui qu'on soit, vous les enseignants, vous les médecins, nous les parents, on est juste là pour accompagner. Et accompagner, ce n'est pas être crispé à tenir la main de peur qu'il s'en aille ou qu'il aille, quel que soit ce chemin et ces chemins de traverse que vous évoquiez tout à l'heure qui nous effraient parce que ce n'est pas les nôtres ou parce qu'on peut s'y perdre ou s'y trouver. Ce n'est pas se crisper sur la main. Accompagner, c'est juste rester à portée de main. C'est laisser l'enfant avancer en disant « je suis là ». C'est un peu comme quand il fait ses premiers pas. Si on crispe la main, il n'apprendra jamais à marcher. Et si on lui dit « je suis là », avance, je reste à ma place. Si tu as besoin de moi, tu te retournes et je suis là.
Merci beaucoup pour condenser en quelques évocations la complexité du fonctionnement humain durant l'enfance, durant l'adolescence et la complexité du travail de parents. Vraiment, oui. C'est tout à fait remarquable ce besoin de tenir en même temps les deux fils qui sont celui qui ouvre vers la créativité, l'imagination, l'immédiat et en même temps l'autre qui contient, qui permet justement que la liberté que l'enfant peut avoir encore s'épanouisse, mais parce qu'il a ce contenant externe que les parents lui proposent du premier âge jusqu'à l'adolescence. Hein. Donc merci beaucoup.
Oui, ça me donne envie de l'illustrer par exactement ce que vous venez de dire, parce que ça montre bien la place du parent particulière à l'adolescence. Je recevais une maman en consultation, ses deux fils successivement, parce qu'ils décrochaient complètement de l'école. Et quand je l'ai vu en entretien individuel, ce que je fais toujours, je reçois toujours les parents seuls, indépendamment de l'enfant, non pas pour raconter ce que me raconte leur adolescent, mais pour avoir leur propre perception de ce qui est en jeu. Cette maman m'explique que ses deux fils, le mercredi après-midi, se gèrent maintenant tout seuls parce qu'elle était à 80% et que jusque-là, elle prenait toujours ses mercredis après-midi et que depuis quelques mois, elle a repris son travail à plein temps parce qu'elle passait ses mercredis après-midi toute seule à la maison puisqu'ils étaient l'un au foot, l'autre au basket, le troisième je ne sais pas où, et que donc elle se tournait les pouces et qu'elle trouvait que c'était pas possible. Et en fait, le fléchissement scolaire de ces gamins avait correspondu au moment où elle a repris son travail à plein temps. Et quand on a pu en parler tous ensemble, les garçons lui ont dit « Oui, mais on sait que tu es à la maison. » En d'autres termes, on sait que si on vient à la maison, on te retrouve. Mais qu'elle ne soit plus à la maison et qu'elle soit au travail, ça ne les sécurisait pas de la même façon pour qu'ils puissent partir dans le monde faire ce qu'ils avaient à faire tout seuls. Donc cet accompagnement parental, c'est ça. C'est-à-dire être là, c'est à la fois un lâcher-prise et en même temps une permanence. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire c'est eux qui deviennent sujets et en même temps on est là comme amortisseur. On ne change pas notre système de valeurs même s'ils le quittent et qu'ils font un mixte entre le nôtre et le leur. Ils expérimentent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ils vivent des instants présents qu'on aurait voulu autrement. Et pourtant, il faut tenir tout en les laissant expérimenter pour qu'ils puissent apprendre à se ramasser tout seuls.
Pour qu'il n'y ait pas de malentendu avec ce que dit Marie-Pierre, ça ne veut pas dire que cette femme devrait pour autant renoncer à son temps plein.
Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
Non, c'est pour ça que je précise.
Je voulais juste montrer à quel point cet environnement enfin, comme les enfants à l'adolescence sont aussi perméables que les tout petits. Finalement, accoucher d'un adulte, c'est la même chose que le soutien à notre rôle de parent. Et vous y faisiez allusion tout à l'heure, et je vous soutiens. On manque de formation là-dessus. Le rôle du pédiatre qui accompagne les parents dans les premières années de vie Et là-dessus, on a un système préventif, la PMI, etc. On a mis en place des choses dans notre système de santé pour accompagner les parents et ceux qui sont le plus en difficulté, on va dire, pour se mettre dans le lien à leur enfant et le porter au monde et le mettre dans un système éducatif. En fait, tout se rejoue à l'adolescence. Et nous devrions avoir le même soutien à la parentalité des adolescents pour les parents, de façon à ce que cet accompagnement de comment être parent d'adolescent puisse se parler aussi. Et nous avons à former effectivement les professionnels de tous bords, quel que soit leur terrain de travail, à accompagner les parents quand leur adolescent est malade ou pose un problème de chemin de traverse, quel qu'il soit finalement.
Alors on va vous donner la parole, c'est l'occasion, juste en attendant que les mains se lèvent, de rappeler que Philippe Jamais est très intéressé aussi par ces questions-là, puisqu'il préside l'école des parents et éducateurs d'Île-de-France, hein, qui s'occupe justement du soutien à la parentalité et de l'accompagnement des parents. Une main par là-bas.
Dominique Michel, je suis à Necker et puis quelquefois à domicile. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants, parce que tout ce qui a été dit résonne dans ma vie personnelle en tant que parent, mais également en tant que grand-parent d'adolescent. Bon, ma question pose sur notre rôle d'enseignant bénévole, en particulier au niveau du collège, donc de l'adolescence. Nous avons souvent des adolescents qui n'ont pas envie de travailler et nous ne savons pas comment agir. Alors, des fois, nous avons des conseils des accompagnants qui nous avertissent. Celui-là ou celle-là ne va pas travailler, mais il faut insister. Donc là, j'ai rencontré souvent le cas, et ce que je fais, j'essaye, pas de biaiser, mais de partir d'un autre sujet d'intérêt et progressivement arriver à l'enseignement. Alors ça ne marche pas toujours. Est-ce que mon intervention, c'est est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils en tant qu'enseignant? Je pense que notre rôle est important dans le développement de l'adolescent. Que sont nos malades ?
Tu veux répondre, Marie-Pierre ? Oui, quand même. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très sensible à l'adolescence, c'est la créativité. Les années collèges ont ce site particulier. C'est que d'ailleurs, statistiquement, il y a toujours une année de fléchissement scolaire au moment du pic pubertaire, pour tous les adolescents. Là, elle peut être en 5e, en 6e, en 4e, ça dépend à quel âge on fait sa puberté. Puisque l'étalement de la puberté peut être avec 4 ans de différence d'un adolescent à l'autre. Il y a une moyenne, mais tout le monde ne suit pas la moyenne. Donc ça, c'est une première remarque. Le fléchissement scolaire, c'est physiologique à l'adolescence. La deuxième remarque, c'est le besoin du groupe à l'adolescence, c'est-à-dire de se fondre dans le groupe pour ne pas trop se faire remarquer, et la difficulté de la différence. Or, nous avons quand même un travail d'enseignement qui est plus basé sur l'individu que sur le groupe. Et je pense que ça, c'est une des grandes difficultés que nous avons, en particulier dans la scolarité à la française, c'est qu'on a un enseignement. Dans les petites classes, je crois qu'il y a encore pas mal de travail de groupe, mais plus ça va, plus quand même il est basé sur l'individu et la compétence de l'individu, et non pas la compétence du groupe. Donc ça, c'est une piste de travail, hein. Parce que les adolescents, pour leur donner l'envie de, il faut qu'ils se reconnaissent à ce moment de fragilité, de mise en doute de leurs propres compétences, mise à l'épreuve de cette construction du processus d'altérité. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce qu'il y a dans mon jardin? Il faut leur découvrir ce qu'ils valent, ce qu'ils ont à offrir, ce qu'il y a dans leur jardin. Et évidemment, ils n'ont pas forcément envie de travailler toutes les matières de la même façon. Ils sont quelquefois en grave difficulté, puisqu'on a quand même, au moment des années collèges, beaucoup d'adolescents qui pointent leur nez du côté de l'absentéisme. On est dans des sociétés qui sont compliquées. Une chose que je n'ai pas dite, mais c'est que c'est quand même la société qui fait le processus adolescent. Pas seulement les familles. Il y a des sociétés où il n'y a pas d'adolescence. Enfin, c'est pas Patrice pourrait le dire. On peut être jeune, mais où on a d'emblée les droits et les devoirs de l'adulte. Parce que la période de passation est très courte entre la prise de responsabilité adulte et le moment où on est pubère. Dans nos sociétés où ça s'étale sur, on pourrait dire, 10 ans maintenant, voire plus, les choses sont de plus en plus complexes. Et la façon dont une société d'adultes accueille ces jeunes en leur donnant des possibilités d'être sujet de leur propre histoire et de leur créativité, c'est une société qui encourage. Quand on est dans une société où le discours prononcé par les adultes est un discours de fermeture, de chômage, d'échec, et qui pérennise une espèce de souffrance sociale en disant « de toute façon, tu ne trouveras pas ta place même si tu es le premier de la classe », pratiquement, on en est là dans les discours qu'on entend. C'est-à-dire, même avec Bac plus 10, tu seras au chômage si tu ne fais pas un effort de plus. Ça, c'est un discours catastrophique pour les adolescents. Donc, le groupe, la créativité, et oui, ce que vous suggérez comme réponse, c'est ce que j'entends dans mon cabinet de tous les adolescents en souffrance de l'école. J'ai besoin de retrouver le plaisir d'apprendre. Donc, notre créativité d'adulte pour leur donner du plaisir à apprendre, et non pas que du devoir d'apprendre, c'est-à-dire... À l'adolescence, ils ont besoin de trouver comment on fait et le devoir et le plaisir en même temps, et non pas ou le devoir ou le plaisir. Tout ce qui favorise le et est essentiel.
Mais vous avez très bien répondu vous-même à votre question. Vous avez dit combien vous faisiez appel à votre créativité, trouver des trucs, des systèmes qui, sans perdre vos objectifs pédagogiques, vont passer par des chemins de traverse, des chemins détournés pour retrouver, ce que Marie-Pierre vient de souligner, un certain plaisir à échanger, à partager des connaissances, mais dont la visée n'est pas annoncée comme première. Elle est en tête chez l'enseignant, mais ce n'est pas ça qui est affiché. Et c'est souvent quand on... Vous connaissez ces tireurs à l'arc au Japon qui vont atteindre la cible, d'autant mieux que les yeux sont bandés. Donc on a quelque chose de ce style, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on poursuit un objectif qu'on va être tout de suite l'affiché comme étant devant passer par un chemin pré-tracé. Ça va être cette co-création d'un chemin particulier avec chaque adolescent. Alors effectivement, certains sont plus difficiles que d'autres à emmener sur ces chemins de traverse, mais c'est quand même très exaltant quand on y parvient. Une autre question peut-être, oui.
Bonjour, Nicole Franceschini, je suis enseignante bénévole. J'ai deux expériences différentes, une expérience qui rejoint peut-être celle des enseignants à domicile, où on a une sensation d'accompagnement, et une autre expérience où je ne vois des enfants quelquefois qu'une seule fois. Une seule fois dans l'année. Et là, c'est un peu frustrant parce que tout ce que l'on dit sur l'idée d'accompagnement ou l'ambiance, tout ça, c'est impossible quand on voit un enfant un quart d'heure, une demi-heure, même une heure, une fois pour toutes. Et c'est un peu frustrant. Et je ne sais pas quel rôle on peut avoir vraiment. Enfin, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une constatation un peu de frustration, parce que quand on voit l'enfant comme ça qu'une seule fois, bon, on fait de son mieux, mais on ne sait pas ce que l'on fait et on ne sait pas dans quelle ambiance on le fait.
Mais en même temps, on a tous et toutes, j'imagine, l'expérience de rencontres très ponctuelles qui ont marqué notre vie et d'autres très régulières qui n'ont laissé aucune trace. Donc, comptons aussi sur ces effets hasardeux de rencontres avec un humain, un adulte, enseignant de surcroît, qui fait passer quelque chose, ne serait-ce qu'une fois. Je crois que ça peut être extrêmement précieux. Dans mes souvenirs d'ancien élève, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est parfois des enseignants qui ne m'enseignaient pas.
C'est sûr que c'est plus confortable de s'inscrire dans une progression et d'en voir les fruits, etc. Moi, j'aime bien cette phrase de la philosophie orientale qui dit « ici et maintenant », tout simplement « ici et maintenant ». C'est-à-dire que qu'est-ce que vous apportez, pourquoi vous venez, ça vaut le coup, ça a toute sa place, autant pour un quart d'heure que vous consacrez à un enfant une fois que vous ne reverrez jamais, malgré la frustration en effet. La frustration, je crois qu'elle n'est pas toujours mauvaise, mais ça c'est les psychiatres qui le disent, qu'un suivi au long cours en fait. C'est ça qui est beau, je trouve, justement, dans cet accompagnement. C'est que malgré le confort que peut procurer un accompagnement à long terme, même si parfois il y a un épuisement, c'est de se dire, je suis là, ici et maintenant, et j'apporte ce que je peux, ici et maintenant.
Une autre question ? Attention, parce que bientôt, vous serez dans la période où vous regretterez de ne pas avoir posé une question.
Alors, ce n'est pas du tout une question. Je voudrais juste répondre, pas répondre, le mot est trop fort, à la gentille collègue qui enseigne à Tarnier. J'ai enseigné pendant 10 ans à Tarnier et j'avoue que j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. C'est vrai que les élèves viennent ou ne viennent pas. Mais je me souviens aussi du premier jour où j'ai mis les pieds à Tarnier, étant reçue par la directrice qui s'appelait Béatrice, je ne sais plus comment, et qui nous a dit « Vous êtes enseignant. N'oubliez pas que vous n'êtes que enseignant. Vous n'êtes pas les parents, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas médecin. Vous devez vous conforter dans ce rôle d'enseignant et le faire le mieux possible. » Et je crois que si on se cantonne dans ce rôle d'enseignant, qu'on essaye de faire le mieux possible, mais on n'a pas à juger l'élève qui n'est pas venu. Moi, j'ai une élève qui a manqué la moitié de l'année. Je dirais que, pour utiliser le langage des profs habituellement, elle était nulle. Et puis, elle est revenue petit à petit. Et le jour de bac, elle n'y est pas allée. Évidemment, on a eu envie de pleurer, de l'engueuler, etc. Bon, on n'a rien fait. Et en fin août, la responsable de Tarnier nous a téléphoné en disant « Voilà, elle veut passer le bac. Est-ce que vous êtes d'accord pour quelques cours avant le bac ?» Je dois dire que rentrer de vacances, ce n'était pas drôle. Qu'on a envie de lui dire « Bon, bah, écoute, tu as manqué, c'est de ta faute. » Donc, on est revenus tous. On n'a pas jugé, on a redonné des exercices. Et puis, elle a eu son bac. Et je dois dire qu'on était vraiment contents, même si elle avait manqué la moitié de l'année. Voilà, c'est juste un petit témoignage.
Très bien, c'est l'avantage des anciens de pouvoir apporter parfois du réconfort. Hein, une dernière question avant que nous arrêtions cette matinée.
Marie-Thérèse, éducatrice dans un service de pédiatrie. Et justement, par rapport à votre rôle, nous, on avait eu un adolescent qui, suite justement au passage de plusieurs professeurs, et il avait accepté et on avait un peu insisté et on avait aussi apprécié les capacités de persuasion de nos professeurs. Et il nous avait dit après, eh bien voilà, moi, on me prend la tête à la maison pour que je prenne des cours particuliers. Eh bien, j'ai l'impression, c'est en octobre, que j'ai appris plus avec ces quelques professeurs que tout ce que j'avais pu apprendre au collège. Eh bien, maintenant, c'est moi qui vais demander à mes parents des cours particuliers. Mmh. Bon.
Très bien. Bah, écoutez, merci à nos intervenants de la matinée. Merci pour ces apports riches et ces échanges face à cet exercice que vous avez en tant que bénévole, qui est si précieux et si difficile en même temps. Merci à tous.
Allô? Juste avant que vous ne partiez pour le déjeuner. Voilà, là ça marche. Juste avant que vous ne quittiez la salle, deux petites choses. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Pour ceux que ça intéresse, il y a des propositions de livres de nos intervenants qui sont donc dans le hall et proposés à la vente, pour ceux que ça intéresse. J'ai oublié de dire également que ceux qui ne sont pas convoqués à l'Assemblée Générale mais qui souhaitent assister tout à l'heure à la conférence de la philosophe Cynthia Fleury, vous êtes bien évidemment les bienvenus. On vous demandera juste de quitter la salle une fois la fin de la conférence, de sorte que nous puissions démarrer l'Assemblée Générale à 15h pour qu'elle se termine à 16h. Et pour ceux d'entre vous qui sont convoqués à l'AG mais qui pour une raison ou pour une autre ne pourraient pas finalement rester, ne pas hésiter à se rapprocher de Valérie Dugas pour laisser un pouvoir. Eh bien, écoutez, bon déjeuner à tous et encore merci à nos intervenants. Merci.